Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Bonjour, au micro Idrissa Sidoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Au Mali, des représentants de la majorité présidentielle ont opéré hier une tentative d'approche de la contestation qui secoue le pouvoir depuis quelques semaines face à un mouvement dit du 5 juin qui insiste sur la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Selon l'AFP, plusieurs d'entre eux ont rencontré des représentants de l'une des composantes du mouvement de protestation, le Front pour la sauvegarde de la démocratie. L'ordre du jour consistait uniquement à explorer la possibilité de mettre en place un cadre de discussion en vue d'une sortie de crise, ont dit les participants. En Gambie, les autorités disent n'avoir aucune intention de décriminaliser l'homosexualité, ni même d'ouvrir le débat sur ce sujet sensible dans ce pays majoritairement musulman, après plusieurs semaines d'une vive polémique. Dans un communiqué, le gouvernement a démenti hier des rumeurs selon lesquelles il aurait l'intention d'assouplir sa législation afin de continuer à bénéficier d'aides étrangères, notamment européenne. La Ligue arabe a appelé mardi au retrait de toutes les forces étrangères du territoire de la Libye et de ses eaux territoriales, ainsi qu'à l'ouverture de pourparlers pour mettre fin au conflit dans ce pays. À la demande de l'Égypte, la Ligue arabe a tenu une réunion en vidéoconférence sur le conflit entre les forces du gouvernement d'Union nationale et celles du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen. D'autres nouvelles africaines dans un instant. Ici aux États-Unis, où l'on déplore 121 176 décès pour 2 342 739 cas de coronavirus, les autorités sanitaires se disent inquiétées hier. Elles se sont inquiétées hier d'une poussée préoccupante de l'épidémie qui par ailleurs a fait plus de 100 000 morts aux Caraïbes et en Amérique latine, dont plus de la moitié au Brésil. Selon le docteur Anthony Fauci, immunologiste en chef de la Maison Blanche, les deux prochaines semaines seront critiques pour répondre à cette poussée inquiétante aux États-Unis. Le Texas, qui a très vite entamé son déconfinement début mai, a notamment enregistré hier un nombre record de 5000 nouvelles infections, poussant son gouverneur républicain, Greg Abbott, à appeler ses concitoyens à rester chez eux. L'Arizona fait partie de ces États américains qui préoccupent à l'ouest comme au sud. Le président Donald Trump s'y est adressé hier à Phoenix à des centaines de ses partisans, des jeunes conservateurs venus entendre dans une méga église son appel à un soutien à sa réélection. M. Trump a salué leur patriotisme et leur refus de céder à ce qu'il a appelé la gauche radicale. M. Trump relançait ainsi l'élan de sa campagne après Tulsa dans l'Oklahoma, où samedi il était intervenu dans un stade où il y avait beaucoup de sièges vides. Une intervention qui lui a permis cependant de récolter plus de 10 millions de dollars. Il a attaqué son rival démocrate Joe Biden et fustigé encore la gestion de la pandémie par la Chine. Auparavant, M. Trump avait été visiter une partie du mur qu'il construit à la frontière avec le Mexique. Son prédécesseur Barack Obama, qui est encore très populaire chez les démocrates, a lui déclaré mardi qu'un grand sursaut traversant les États-Unis pourrait permettre de battre M. Trump en novembre. C'était lors d'une levée de fonds en ligne qui a permis à son ancien vice-président et candidat démocrate à la Maison-Blanche, Joe Biden, de récolter 11 millions de dollars. Après s'être longtemps fait discret, M. Obama s'est exprimé à plusieurs reprises depuis la mort de George Floyd le 25 mai, qui a provoqué un mouvement historique de protestation contre les violences policières et le racisme aux États-Unis. Le Mexique, déjà aux prises avec la crise du COVID-19, a été secoué hier par un violent tremblement de terre qui a fait au moins 6 morts et déclenché une alerte au tsunami du Pérou jusqu'à Hawaï. La suite de nos informations. Le Malawi attend les résultats de l'élection présidentielle d'hier. Portrait des deux candidats favoris avec Eric Manirakiza.
Le président sortant Peter Mutharika, 79 ans, a remporté son premier mandat lors des élections de 2014. C'était 2 ans après la mort de son frère aîné, le président Bingu wa Mutharika, après une crise cardiaque. Sa réélection l'année dernière a été annulée par un tribunal, ce qu'il a qualifié de coup d'état judiciaire. Ancien professeur de droit, Peter Mutharika a été plusieurs fois ministre. Il est arrivé au pouvoir sur une promesse de s'attaquer à la corruption après un gros scandale en 2013 révélant des pillages dans les coffres de l'État. Mais son premier mandat a été dominé par des pénuries alimentaires, des pannes d'eau courante qui ont nui à sa popularité. En avril dernier, ses tentatives d'imposer un verrouillage pour limiter la propagation du coronavirus ont été torpillées par la justice. En face, l'opposant Lazarus Chakwera, 65 ans, dirige le Malawi Congress Party qui a dominé le pays pendant 3 décennies, de 1964 à 1994, avec Hastings Kamuzu-Banda. Depuis, le MCP a perdu 5 élections présidentielles, mais Chakwera a fait de grands efforts pour redynamiser la base. Diplômé en philosophie et en théologie, il a été président des Assemblées de Dieu du Malawi de 1989 à 2013. Chakwera est né à Lilongwe d'un fermier qui a perdu ses 2 fils aînés. C'est pour cela qu'il est nommé Lazare, d'après le personnage biblique que le Christ aurait ressuscité des morts, le faisant sortir de son tombeau.
En République démocratique du Congo, 2 responsables d'agences nationales ont été condamnés hier à 3 ans de travaux forcés pour détournement de fonds publics, 3 jours après la condamnation dans un autre procès de Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi. Le point avec Eddy Issango.
Benjamin Wenga, directeur général de l'Office des voiries et drainages, et Fulgence Bamaros, son collègue du Fonds national d'entretien routier, ont été coupés chacun des 3 ans de travaux forcés. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a condamné leur co-accusé, Modeste Makabouza, patron de la Société congolaise des constructions, à 1 an de travaux forcés. Les 2 responsables ont été déclarés coupables des détournements dans le financement des chantiers routiers toujours inachevés à Kinshasa et dans les villes de Goma et Bukavu. Le DG de Sokok est lui accusé d'avoir logé dans son compte une partie de fonds détournés. Samedi, le tribunal a condamné l'ex-président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, à 20 ans de travaux forcés. Il est accusé d'avoir détourné plus de 50 millions de dollars alloués à la construction des logements sociaux. Il s'agit d'une série de procès sur des détournements d'argent public destinés au programme dit des 100 jours du président Tshisekedi. Plusieurs groupes de défense des droits de l'homme veulent voir ces poursuites aller plus loin, même si le président Félix Tshisekedi avait prévenu qu'il n'irait pas fouiner dans le passé ni faire des chasses aux sorcières.
Les 193 membres de l'ONU se sont finalement entendus pour maintenir à environ 6,5 milliards de dollars le budget annuel des opérations de maintien de la paix dans le monde. Le point avec Abdourahman Dia.
Ce montant servira au fonctionnement de la 15aine d'opérations à travers le monde sur la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. Il a légèrement baissé par rapport à l'an dernier. L'opération de casque bleu en Haïti a depuis fermé pour laisser place à une mission politique. Au début de la négociation, la Russie avait réclamé une réduction d'environ 200 millions de dollars, notamment pour la mission MINUSMA au Mali, mais Moscou s'est finalement rangé derrière la position chinoise qui ne réclamait que 43 millions de réductions, a précisé une source diplomatique. Premier contributeur, avec 25% du budget total, les États-Unis se sont montrés moins durs que les années précédentes, tout en insistant pour améliorer les critères de performance réclamés aux missions de paix et développer la lutte contre les abus, a indiqué un diplomate. La pandémie de COVID-19 entraîne des surcoûts, notamment en matériel médical et de protection, mais aussi des baisses de dépenses. Mais il y aura moins de voyages et moins de rotations de personnel, raison pour laquelle il a été décidé de garder de la flexibilité dans les budgets attribués aux différentes missions de paix.
La Minute Éco, Nanit Talani.
La Banque centrale du Nigeria a collecté 598 millions de dollars auprès des banques détenant des liquidités excédentaires dans le cadre des mesures visant à soutenir le Naira. La monnaie nigériane est sous pression à cause du coronavirus, la baisse du prix du pétrole et le départ des investisseurs étrangers. Le Naira a atteint son plus bas niveau depuis mars, alors que la Banque centrale l'a dévalué de 15% pour atténuer l'impact du crash pétrolier. La société Sasol, producteur pétrochimique, prévoit de supprimer des emplois et de mettre fin aux opérations pétrolières en Afrique de l'Ouest dans le cadre d'une refonte de ses affaires. Sasol évoque des dettes élevées, une baisse des prix du pétrole et des produits chimiques et une baisse de la demande en raison du coronavirus. Ses intérêts dans le pétrole africain incluent une participation de 27,75% dans le permis Etame marin au Gabon et une participation de 10% dans un projet de gaz liquide au Nigeria. Pour terminer, la croissance économique du Rwanda a ralenti à 3,6% au premier trimestre contre 6,1% l'an dernier à cause du coronavirus. Le Bureau rwandais des statistiques a indiqué sur son compte Twitter que parmi les secteurs dont les performances se sont détériorées figurent l'agriculture, l'industrie et les services.
Les sports à présent avec Yakuba Ouedraogo.
Bonjour à tous. La Botola Première Ligue revient. Le championnat marocain de football va reprendre fin juillet. Selon l'annonce faite par le ministre de la Culture et des Sports, Othman El Ferdaous, le Wydad de Casablanca occupe la première place du classement, figé à la 21e journée d'un championnat qui en compte 30. Les détails de cette reprise annoncée avec notre correspondant à Casablanca, Amine Birouk.
Une décision qui a été prise par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Elle a été annoncée au Parlement marocain. Ensuite, la Fédération royale marocaine de football a emboîté le pas avec une réunion télématique avec tous les présidents de clubs de ligue pour annoncer le retour du football. Un retour selon un protocole sanitaire strict puisque les équipes vont devoir retrouver l'entraînement à partir de jeudi. Il y aura une préparation en deux phases. La première de 10 jours avec entraînement en groupe. La seconde avec entraînement collectif jusqu'au 24 juillet, date du retour du championnat. Il faudra bien évidemment évacuer toute la période concernant les matchs en retard. Ce sera le cas entre le 24 juillet et le 8 août. Puis à partir du 12 août jusqu'au 12 septembre, disputer les 10 dernières rencontres qui vont permettre de faire connaître les équipes qui disputeront les compétitions africaines, le champion du Maroc et son dauphin pour la Champions League, et les équipes classées en 3e et 4e position en ce qui concerne la Coupe de la CAF. Il y aura un protocole sanitaire strict avec contrôle des joueurs tous les jours. Et il y aura évidemment confinement des équipes dans les hôtels. Et puis, n'oublions pas qu'il y aura également, et ça c'est le plus important, une programmation vue en conséquence avec des matchs disputés à 18h, 20h et 22h, les 5 changements qui seront permis et évidemment un protocole sanitaire et un suivi très rigoureux qui vont permettre au championnat marocain de se disputer et de connaître son dénouement. Le football au Maroc revit, la vie reprend son cours.
C'était donc notre correspondant à Casablanca, Amine Birouk. En Algérie, l'ancien international Majid Bouguera a été nommé à la tête des Fenecs locaux. L'ancien capitaine de l'équipe nationale et entraîneur d'Al Douhel a pour mission de mettre en place une équipe compétitive en vue du CHAN 2022 qu'accueille l'Algérie. En plus de cela, il devra aussi prospecter et suivre les joueurs du championnat national, non seulement pour la sélection dont il aura la responsabilité, mais aussi pour l'équipe A où il collaborera avec Jamal Belmadi, sélectionneur des Fenecs. Entre juillet 2019 et février 2020, Majid Bouguera a entraîné Al Fujairah aux Émirats Arabes Unis avec un bilan de 10 défaites, 3 victoires et 2 matchs nuls en 15 rencontres.
Vous êtes croyant, animiste ou athée? VOA Afrique vous accorde une tribune dans Dialogue des religions pour parler de la religion, de la vie et de la société. Vous ne penserez jamais tous de la même façon, vous ne verrez qu'une partie de la vérité et sous des angles différents. Vivre, c'est aussi un privilège, un cadeau à protéger. Retrouvez donc Eric Manirakiza tous les mercredis et dimanches à partir de 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com. Sans oublier la page Facebook, laissez-nous vos numéros et partagez vos commentaires ou témoignages. Mais n'oubliez pas, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu meilleur que vous l'avez trouvé. Bienvenue au Dialogue des Religions.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Que s'est-il passé le mois dernier à la gendarmerie de Tanwal-Bougou dans l'est du Burkina? 12 villageois avaient trouvé la mort dans leur cellule le 12 mai. Le procureur du Faso à Fada avait affirmé que les corps n'avaient pas de traces de torture et qu'il n'avait pas pu établir les raisons exactes de ces morts. Après plusieurs semaines d'enquête, la Commission nationale des droits humains du Burkina affirme sur la base de nouveaux témoignages que les personnes arrêtées ont été torturées. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
La mort le 12 mai de 12 villageois arrêtés avec 13 autres pour suspicion de terrorisme par les forces de défense et de sécurité à Tanwal-Bougou alimente les débats. Aucune autopsie n'a été effectuée à ce jour. Et selon un certificat médical cité par le procureur du Faso, Judikael Kadeba, les corps ne présentaient aucune trace de violence physique. Mais début juin, la CNDH, la Commission nationale des droits humains, s'est rendue dans la localité et tire une autre conclusion.
Les personnes arrêtées affirment avoir subi des actes de torture et de maltraitance.
Khalifa Namouano, président de la Commission nationale des droits humains.
Ils affirment avoir été battus, frappés avec divers objets et sur l'ensemble donc de leur corps.
La CNDH demande une célérité dans le traitement du dossier par la justice militaire. Khalifa Namouano.
Dans le cas du décès des 12 détenus et du renforcement de la sécurité dans la zone, invite donc la justice militaire dans le cadre de la manifestation de la vérité à plus de célérité dans le traitement du dossier afin d'identifier les causes réelles et exactes, de situer les responsabilités, de sanctionner les coupables.
La Commission des droits de l'homme s'inquiète aussi des tensions communautaires dans la région qui, selon les mots de Khalifa Namouano, est une véritable poudrière avec des communautés qui se regardent en chien défaillance et des risques très élevés d'affrontements intercommunautaires. Mais selon le CISC, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, le vrai problème ce sont les volontaires armés par l'État dans des conditions peu claires et aussi l'action de certains éléments des forces de l'ordre. Daouda Diallo en est le porte-parole.
Il n'y a que les volontaires et les gendarmeries qui mettent tout en œuvre pour empêcher les peuples à avoir accès aux services sociaux de base. Ce que les autorités pourront faire, c'est d'engager une enquête indépendante et travailler à ce que les victimes soient protégées et compensées. Il faut également urgemment relever le chef de poste de la gendarmerie avec ses collaborateurs et suspendre aussi les volontaires pour engager un dialogue franc.
Siaka Koulibaly, analyste politique, salue l'action de la CNDH.
Sous le couvert donc de la lutte contre le terrorisme, il se trouve qu'il y a aussi des exactions menées par les forces de défense et de sécurité. Ces exactions ont été rapportées par plusieurs organisations internationales comme Amnesty International, comme Human Rights Watch, impliquant les armées des pays du Sahel, à savoir le Mali, le Niger et le Burkina Faso.
Aussi, le dossier doit avancer sur le plan judiciaire.
On aurait aimé avoir des avancées significatives.
Albert Nagreogo est le directeur de publication du site en ligne Libre Info.
Quoi qu'il en soit, aucun rapport aujourd'hui ne peut conforter la position des parents que ces victimes n'ont pas été exécutées par balle.
Le président Kabore, après un conseil de défense, avait rassuré que toute la lumière sera faite autour de ce dossier de Tanwal-Bougou. La Commission des droits humains, pour sa part, dit rester extrêmement préoccupée par des actes de violation des droits de l'homme ces derniers au Burkina. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Cameroun, les agents humanitaires et de santé ont salué les appels des prix Nobel de la paix et d'anciens chefs d'État en faveur d'un cessez-le-feu COVID-19 dans les régions anglophones. Les combats entre les militaires et séparatistes ont contraint à la fuite plus de 1000 agents de santé et secouristes, ce qui met encore plus en danger des dizaines de milliers de malades. Le Cameroun a confirmé plus de 12 300 cas et 309 décès dus au coronavirus. De Yaoundé, reportage d'Edwin Moki Kinzeka, repris ici par Lionel Gahima.
Parmi les Nobel de la paix qui ont appelé à un cessez-le-feu COVID-19 au Cameroun, figure Mohamed Yunus de Bangladesh, surnommé le banquier des pauvres. On retrouve aussi dans la liste les anciens présidents de Timor oriental, José Ramos Horta, et de l'Afrique du Sud, Frédéric de Klerk. Ils font partie de la campagne mondiale pour la paix et la justice au Cameroun, qui a demandé lundi au Conseil de sécurité des Nations Unies et à l'Union africaine de faire pression pour mettre fin au combat. Ce groupe de 15, qui comprend trois anciens ambassadeurs américains au Cameroun, appelle à une trêve dans les régions anglophones de ce pays pour que les agents de santé puissent y travailler en toute sécurité. Tite Pius, directeur de la Convention baptiste des services de santé des églises du Cameroun, depuis la ville de Bamenda, dans le nord-ouest du pays.
Le COVID-19 pose un problème plus grave à la population parce que vous devez identifier les cas rapidement, les isoler et traiter ceux que vous pouvez soigner tout en prévenant d'autres infections dans la communauté. Nous ne pouvons pas faire notre travail. Les agents de santé ont peur quand ils voient toutes ces armes du gouvernement et des rebelles.
T. Pius rapporte que 4 agents de santé ont été enlevés lundi dans la région. Toujours à Bamenda, Tani Christian Eselekwe fait partie de la branche camerounaise de la fondation Martin Luther King, un groupe humanitaire américain. Leurs services ont été interrompus le mois dernier lorsque des groupes armés ont enlevé le personnel et volé les véhicules transportant de l'aide humanitaire.
Notre plaidoyer est qu'il faut un cessez-le-feu pour permettre à ceux qui sont touchés par la crise de recevoir l'assistance nécessaire. En tant qu'organisation humanitaire, nous travaillons strictement sur la base de principes humanitaires et du droit international humanitaire. Nous ne prenons pas parti et nous veillons à ce que toutes nos opérations visent à soulager les souffrances des personnes affectées par ces crises.
Sur les réseaux sociaux, les rebelles anglophones ont eu des réactions mitigées à l'appel au cessez-le-feu. Les forces dites de défense anglophones se disent en faveur d'une trêve, mais ont averti qu'elles vont riposter si elles ont provoqué des soldats camerounais. Certains insurgés sont favorables à une pause, tandis que d'autres appellent à continuer la lutte pour l'indépendance jusqu'à ce que le gouvernement retire ses troupes. De son côté, l'armée assure qu'elle poursuivra ses opérations contre les bastions séparatistes. Elle dit avoir tué 24 rebelles la semaine dernière dans le nord-ouest. Pour le moment, le gouvernement se refuse à tout commentaire. Son porte-parole, René Emmanuel Sadi, promet de se prononcer au moment approprié. Selon l'ONU, le conflit séparatiste a fait plus de 3000 morts et plus d'un demi-million de déplacés au Cameroun.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, lancent à Goma une vaste campagne d'identification et de contrôle des effectifs militaires dans 3 provinces de l'est du pays, où l'armée mène depuis plusieurs années des combats contre différents groupes armés locaux et étrangers. À Goma, où les machines sont arrivées pour une identification biométrique, tous les commandants des unités sont venus s'enregistrer, mais aussi des militaires de rang, nous dit Charlie Kasereka, notre correspondant sur place.
Les contrôleurs venus de Kinshasa pour cette opération ont débuté leur travail le week-end dernier ici à Goma. Un contrôle biométrique, question d'avoir des listes actualisées des effectifs qui sont actuellement en opération dans la partie est du pays. Être reconnu et avoir son nom dans la base de données, c'est la joie qu'exprime le sergent Amaniki Kaeme.
Je suis tellement contente comme je suis maintenant reconnue par l'armée. Je viens de faire mon contrôle biométrique, mes empreintes sont dans la machine. C'est que me réjouis car j'aurai tous mes droits cette fois à mon nom, que ce soit la tenue, bottine ou tout autre équipement militaire.
Après le Nord Kivu, les contrôleurs se rendront au Sud Kivu voisin, comme aussi en province d'Ituri, actuellement touchée par des tueries dans un conflit avec les groupes armés mystico-religieux appelés Codeco. Venu pour lancer et superviser cette opération, le chef d'état-major des forces terrestres et des FARDC, le général-major Isidore Karumbu Yankole, explique que l'objectif est de déterminer le nombre exact des militaires déployés dans cette zone opérationnelle et faciliter ainsi la planification en termes de logistique.
Nous ne voulons pas qu'il y ait un militaire qui manque à ce contrôle. C'est lui qui sera absent jusqu'à la clôture de l'opération. Doit se considérer avoir quitté l'armée. Parce qu'aucune réclamation ne sera acceptée compte tenu des différents inconvénients que nous avons vus avec les anciens contrôles. L'équipe ira aussi au plus près du front pour qu'il n'y ait pas de militaires qui manquent parce qu'ils n'ont pas été rapprochés par l'équipe.
La société civile du Nord Kivu s'est réjouie de la nouvelle, mais souhaiterait voir cette opération effectuée dès le lancement des opérations militaires à Beni les années passées. Celle-ci demande cette fois qu'un rapport exact des effectifs soit élaboré et présenté au chef de l'État à la fin de ses contrôles. Placide Zilamba, acteur de la société civile au Nord Kivu.
Ce qui est lancé aujourd'hui, c'est l'élément primordial. Vous ne pouvez pas programmer sur base de ce que vous ne connaissez pas. Et c'est la raison pour laquelle les opérations bâclent ici au Nord Kivu, au Sud Kivu, même dans tout l'Est de la République. Et nous pensons que cette fois-ci, ceux-là qui sont censés mener ce travail-là vont le faire à tout esprit patriotique et vont donner un rapport fiable au président de la République pour amener le gouvernement à programmer sur base des effectifs réels et non des effectifs de mensonges.
Dans les trois provinces de l'Est, à savoir le Nord et le Sud Kivu, en plus de celle de l'Ituri, l'armée congolaise y mène des opérations militaires contre les groupes armés depuis aujourd'hui plus d'une décennie. En octobre 2019, les opérations militaires dites de grande envergure ont été lancées à Beni contre la rébellion ougandaise des ADF, FDLR, comme tous les autres groupes armés locaux qui tuent, pillent dans cette partie du pays. Depuis Goma, Charlie Kasereka pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Où en sommes-nous au sujet des négociations sur la construction d'un méga barrage éthiopien sur le Nil? Le projet, source de vives tensions régionales, a été au centre d'une réunion du Conseil de sécurité. Ce dernier appelle l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan à travailler ensemble, signe sans doute que les négociations commencées depuis des mois sous l'égide des États-Unis et de la Banque mondiale piétinent en quelque sorte. Pour en savoir davantage sur les points de blocage, Bagasikoura a joint ici à Washington Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint chargé des questions africaines.
L'Égypte croit que l'Éthiopie va remplir le barrage trop rapidement. Donc ça va priver le peuple d'Égypte de l'eau du Nil, très important pour l'agriculture. Pour l'Égypte, l'eau du Nil, les deux Nils, le Nil bleu, le Nil blanc, c'est la vie ou la mort pour l'Égypte. Donc il croit que l'Éthiopie va remplir le barrage très rapidement.
Et on parle du mois de juillet pour ce remplissage.
Pour commencer le remplissage, combien de temps ils vont prendre pour remplir? Est-ce qu'ils vont prendre 3 mois, 6 mois, 1 an? Je ne sais pas. Mais selon l'Égypte, ils vont faire ça trop rapidement.
Est-ce que vous savez si les négociateurs ils sont confiants? Est-ce qu'il y a une seconde chance possible?
Ça doit être possible. L'Amérique a fait les négociations et ils ont fait une proposition. Mais l'Éthiopie a rejeté la proposition des États-Unis.
Laquelle?
Mais ça, les États-Unis n'a pas dit, n'a pas donné des détails en public. Donc, je ne peux pas dire. Mais l'Éthiopie, sans doute, croit que la proposition américaine demande que le remplissage soit trop lent. Peut-être ça doit prendre quelques années.
Alors là, on parle d'Éthiopie, de l'Égypte. Il y a aussi le Soudan dans la liste de ces pays-là. Pourquoi le Soudan?
Le Nil, les deux Nils, le Nil bleu et le Nil blanc, passent par Soudan avant d'arriver en Égypte. Donc Soudan aussi dépend des eaux du Nil. Ils ont leur agriculture, ils ont leur besoin d'eau pour les ménages. Donc eux aussi ont des soucis pour le barrage.
Donc c'est un peu comme deux contre un. Égypte-Soudan d'un côté.
Ça peut être deux contre un, oui, c'est vrai.
Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint, chargé des questions africaines. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidoudia et de Michel.